Donc bonjour à toutes et tous. Je vais être la porte-parole de Valentin, de Christophe et de Sylvie pour cette présentation donc sur le domaine national de Chambord, qui s'inscrit dans la continuité d'autres présentations qui ont été faites précédemment, donc notamment celle de Chloé Gerbois, celle d'Isabelle Charpentier et celle également d'Audrey Aligné, puisque cette présentation s'inscrit dans le cadre de l'atelier transversal du réseau des zones ateliers, donc consacré aux trajectoires. Donc, je vous emmène, donc on quitte les Alpes pour aller vers le domaine national de Chambord, qui est le site que vous auriez pu visiter si on avait pu faire le colloque en présentiel. Donc, du coup, ce domaine national de Chambord, il est d'abord connu pour son château, mais il faut savoir que c'est aussi un village, des fermes et également une forêt qui fait plus de 5000 hectares et qui constitue en fait le plus vaste domaine clos d'Europe, puisque cette forêt est en effet cernée de murs, de 32 km de murs, comme vous le pouvez le voir hein, sur cette carte sensible. On est là donc aux marges de la Sologne, donc en région Centre-Val de Loire. Et en fait, ce qui ressort de nos recherches, c'est que les évolutions qu'ont connues le domaine national de Chambord sont en fait caractéristiques d'autres évolutions qu'ont connues d'autres territoires au sein de la Sologne, à savoir une progression de la forêt qui va se faire par plantation au XIXe siècle et qui va être à l'origine donc des paysages actuels. Donc, c'est ce qu'on peut voir à travers ces deux cartes. On voit clairement cette progression de la forêt qui explique sa forte présence sur le territoire aujourd'hui. Donc notre question sur ce territoire, c'est de savoir quelles ont été les trajectoires des paysages et de la faune sauvage au sein de ce domaine et plus particulièrement pour cette présentation, quel a été le rôle joué par la gouvernance. Donc, je vais tout d'abord vous présenter le contexte de la recherche, les sources et méthodes. Puis, on passera sur les dynamiques sur le temps long de manière assez brève pour surtout s'attarder dans un troisième point sur les dynamiques depuis 1947. Donc, le contexte de la recherche, donc, au départ, c'est un projet de recherche financé par la région Centre-Val de Loire, porté par l'IRSTEA, donc notamment par Christophe, en l'occurrence par Christophe Balzinger, en partenariat avec le domaine national de Chambord. Donc, ce projet de recherche intitulé COSTOT pour contribution des ongulés au fonctionnement de l'écosystème et aux services rendus à Chambord. L'objectif, c'était d'améliorer la compréhension des paysages à travers une approche pluridisciplinaire en se focalisant sur les ongulés sauvages considérés comme étant les acteurs des dynamiques des socio-écosystèmes contemporains de ce territoire. Donc, on s'est ainsi intéressé aux liens, enfin, aux dynamiques paysagères. On a essayé de les reconstituer et en s'intéressant donc aux liens qu'il pouvait y avoir entre ces dynamiques et les ongulés, en voyant le rôle donc de ces ongulés dans le fonctionnement de l'écosystème, mais aussi dans la fabrique de l'image de Chambord. En effet, hein, le domaine national de Chambord hein, mise sur cette image, ce qu'on verra par la suite. Donc, cette recherche, elle s'est poursuivie dans le cadre de l'atelier transversal Homme Nature du réseau des zones ateliers. Dans ce cadre, on a mobilisé donc la frise chronosystémique à travers donc c'est la ZA timeline que vous a présentée Isabelle Charpentier, donc que l'on remercie au passage pour nous avoir permis d'utiliser cet outil qui nous a facilité la tâche. Et puis, c'est aussi la mobilisation du cadre conceptuel des Nature's Contribution to People. Donc, l'intérêt de cette frise chronosystémique, et notamment à travers la ZA timeline, eh bien, ça a été d'identifier des trajectoires, d'identifier également des points de rupture, de faire ressortir des liens et d'essayer de distinguer des périodes, sachant que pour notre cas sur le domaine national de Chambord, on a distingué deux temporalités. Une sur le temps long depuis le XVIe siècle, moment où apparaît, où est créé le domaine, et puis une sur un temps plus court, donc une autre échelle temporelle imbriquée, depuis 1947, où le domaine de Chambord devient réserve de chasse et de faune sauvage. À travers ces deux temporalités, leur analyse, notre objectif était de questionner le rôle de la gouvernance, plus particulièrement dans le cadre de l'atelier transversal, de questionner le rôle de la gouvernance dans les trajectoires des paysages et de la faune. Donc pour cela, on a mobilisé, remobilisé des sources donc qu'on avait déjà mobilisées dans le cadre du projet Costaud, et donc là, en vue de notamment les intégrer dans notre frise chronosystémique. Donc ces différentes données mobilisées, ce sont des données d'archives, des rapports, également des informations collectées sur le terrain et des sources spatialisées qui avaient été préalablement intégrées dans un SIG, donc des cartes, des plans, des photographies aériennes. Donc on était en effet face à une importante quantité d'informations, d'autant plus qu'on est sur un domaine qui est relativement bien documenté. On a de nombreuses archives qui sont disponible et donc la frise chronosystémique nous permettait véritablement de faire ressortir des éléments qui ne ressortaient pas forcément à première analyse. Et on a également donc mobilisé donc les cartes de dynamique paysagère. L'objectif était in fine hein, d'identifier les événements clés dans les trajectoires du socio-écosystème de Chambord. Donc tout d'abord sur le temps long. Donc, la première date, eh bien, c'est le moment où le domaine national de Chambord est créé, c'est au XVIe siècle. Première date clé qui va constituer notre point de départ de notre analyse. Dès ce moment-là, le domaine est créé pour être un domaine de chasse. Au fil du temps, hein, la gestion elle a varié, on a eu différents propriétaires, mais la chasse reste un fil conducteur, ça reste le leitmotiv sur ce territoire, qui est un domaine de chasse, mais un domaine de chasse réservé, hein, et ce, avant même la création du domaine, puisque dès le XIVe siècle, hein, la chasse est interdite aux non-nobles sur ce territoire. Donc, si on regarde hein, les différents événements, on voit que le domaine a gardé tout au long de l'histoire hein, cette fonction cynégétique, sauf au XVIIIe siècle, pendant une courte période où il perd cette fonction-là, mais ça reste sinon vraiment un domaine de chasse. Donc cette priorité donnée à la fonction cynégétique, elle va influencer de manière variable les paysages selon que l'on soit dans un moment de surpopulation de gibier ou de sous-population. En effet, hein, donc on voit à travers ces deux photos que les impacts que peut avoir hein, les ongulés notamment hein, sur le développement de la végétation, donc en engendrant un abrutissement hein, des formations végétales et des taillis. Pour autant, l'événement marquant sur ce temps long, ça va être les premières plantations forestières qui surviennent donc au XIXe siècle. Donc, je vous le disais, hein, sont aussi on peut aussi les constater hein, plus généralement à l'échelle de la Sologne, mais ceci impacte particulièrement le domaine national de Chambord, où on observe dès lors, du fait de ces plantations, une régression de l'agriculture et puis surtout une prédominance de la forêt qui n'était pas visible auparavant. Avant, la forêt était vraiment restreinte dans la partie sud du parc de Chambord. Mais dès lors qu'il y a eu ces plantations, on voit véritablement cette progression de la forêt. Pour autant, cette forêt, elle reste toujours subordonnée aux fonctions cynégétiques. Donc au final, sur cette période depuis le XVIe siècle, on n'a pas de grands changements dans les objectifs. Ça reste toujours des objectifs de cynégétiques, mais on a quand même une grande évolution du point de vue paysager. Alors, le problème auquel on se heurte, c'est des sources qui sont finalement lacunaires sur cette période. Même si on est face à un domaine qui est bien documenté du point de vue historique, on a quand même des manques pour connaître, pour pouvoir quantifier la faune présente, pour pouvoir connaître précisément les types de peuplements forestiers que l'on a à cette époque. C'est la raison pour laquelle on s'est plus particulièrement focalisé sur la période plus récente, donc depuis les années, la fin des années 1940, ou plus exactement depuis 1947. À ce moment-là, le domaine devient réserve nationale de chasse et de faune sauvage. Il est soumis au régime forestier et on a des données qui sont quand même plus nombreuses, qui nous permettent d'établir une cartographie des dynamiques forestières, notamment plus précise, donc notamment entre 1950 et 2011. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, pendant cette période, on a une très grande stabilité de la forêt, hein, très peu de changements. Des changements qui vont être uniquement perceptibles au niveau local, avec en l'occurrence une augmentation de la forêt qui va se faire au détriment de cultures, de prairies ou de landes, plutôt dans la partie nord du territoire. Et puis, on observe également un recul, à l'inverse, hein, sur d'autres espaces, qui va se faire au profit de landes et de prairies à gibier. Et à travers ce recul forestier en certains espaces assez dispersés hein, sur le territoire, eh bien, on perçoit que la chasse, elle est toujours un facteur de dynamique sur cet espace. Alors, donc, grâce à la frise chronosystémique, on a souhaité aller un peu plus loin que cette trajectoire qui semble être plutôt dans le sens d'une stabilité. Donc, la frise chronosystémique, ce qu'elle nous a permis de voir, son principal apport, ça a été de distinguer finalement quatre périodes et puis de mettre en avant un changement de paradigme, en l'occurrence, donc une plus grande prise en compte de la biodiversité qui transparaît. On a en fait une évolution de la gestion qui va se faire de manière graduelle, mais qui est à mettre en relation avec un changement de gouvernance. Donc avec une première période qui est en fait la période d'appropriation du domaine jusqu'en 1969. Puis on observe une gestion qui se met en place, mais qui va se faire donc au profit de la faune et de la chasse. Ensuite, on a une période de transition à partir de 1996 où on commence à observer un début de prise de conscience environnementale institutionnelle. Et puis, à partir de 2005, on a la gestion qui est actuellement en place, donc une gestion qui est plutôt multifactorielle et qui est locale, hein, donc notamment avec la création de l'établissement public à caractère industriel et commercial. Donc pour pouvoir quantifier cette trajectoire depuis les années 1950, donc en lien avec l'atelier transversal, notamment pour pouvoir comparer l'évolution de notre socio-écosystème avec celui étudié par les collègues dans le cadre de cet atelier transversal. Donc on a mis en place des indicateurs dans le but de quantifier. Alors nous, donc, plus particulièrement pour notre territoire, c'était évidemment d'identifier des indicateurs de faune et de chasse. Donc, on a fait avec les données également que l'on avait à disposition. Et en l'occurrence, on disposait donc du nombre moyen de sangliers abattus chaque année. Donc, on en a fait un graphique pour voir un peu les évolutions par période identifiée. Donc, ce que l'on observe, hein, que ce soit pour les sangliers ou pour les cervidés, on voit vraiment une évolution à partir de 1969 où on a un plus grand nombre d'ongulés qui est abattu, donc qui est tué donc dans un objectif de régulation. Alors, on voit que c'est quand même croissant pour les sangliers, ce qui peut être mis en relation aussi avec l'augmentation des populations. Dans le même temps, on a aussi ce que l'on observe, c'est une augmentation des surfaces engrillagées, alors une augmentation progressive. L'engrillagement va en fait permettre de protéger les semis, de protéger les plantations pendant les premières années pour éviter que ce soit détruit par les ongulés, donc ce qui pourrait compromettre la reconquête forestière après exploitation. C'est vraiment une pratique qui se met en place, qui perdure, qui augmente notamment à partir des années 1980. Donc une volonté, à travers cela, hein, de concilier la fonction cynégétique, mais aussi la fonction forestière, hein, de conserver la forêt, de préserver la forêt aussi des impacts de la faune sauvage. Un autre indicateur que l'on a considéré, propre aussi à notre territoire, puisqu'on est quand même face à un territoire qui le plus visité de la région Centre-Val de Loire, pour son château bien évidemment, mais pas simplement, aussi de plus en plus pour les activités extérieures. Donc il nous semblait important de prendre en compte cet indicateur-là, donc en considérant le nombre d'entrées dans le domaine. Alors, sachant que le domaine est ouvert au public, donc on ne peut pas savoir exactement les personnes qui visitent la partie ouverte sans visiter le château, mais on peut le percevoir à travers les personnes qui font des activités. Et donc, ce que l'on observe, c'est finalement une grande stabilité de la fréquentation touristique, un léger abaissement au début des années 2000, mais c'est surtout à partir de 2007 une très, très forte augmentation qui est à mettre en lien avec des évolutions avec le changement de gouvernance. Cette fréquentation touristique, c'est donc le château, mais c'est aussi à l'extérieur des activités proposées qui vont en se multipliant et qui permettent notamment d'aller découvrir la réserve, donc la réserve qui n'est pas ouverte au public, hein, qui, c'est simplement une partie du domaine national de Chambord qui est ouverte au public. La réserve, elle, n'est pas accessible, sauf dans le cadre de visites payantes. Autre indicateur considéré, c'est l'occupation des sols, donc là, qui peut nous permettre de faire davantage de liens avec les autres socio-écosystèmes étudiés dans le cadre de l'atelier transversal. Mais ce que l'on perçoit, c'est que pour notre territoire, finalement, comme je vous le disais, on a une très grande stabilité. Et donc, finalement, cet indicateur s'avère limité, où il faudrait en fait aller plus loin. Ce que l'on perçoit toutefois, c'est quand même une progression, notamment hein, des cultures entre 1996 et 2011, mais pas de grande évolution du point de vue de l'occupation des sols, a priori. A priori, parce que oui, à l'échelle du domaine, effectivement, le domaine reste très largement forestier, mais si on regarde à l'échelle locale, et notamment dans la partie du domaine qui est ouverte, eh bien, on observe de grands changements, des aménagements touristiques qui s'orientent notamment vers la sensibilisation à la biodiversité, la nature également, en lien avec des activités, des pratiques passées, donc des modes d'occupation des sols passés, donc, notamment pour ce qui est du vignoble. Donc, en conclusion, ce que l'on voit donc, à travers donc, cet exemple, c'est qu'on a un parc qui a d'abord été créé pour être un domaine de chasse. Il conserve cette fonction cynégétique jusqu'en 1947. C'est vraiment ce qui guide la gestion de ce domaine, qui est avant tout un domaine de chasse, même si on peut observer des changements de propriétaires. Et l'évolution majeure, ça va être ces plantations hein, qui entraînent un changement paysager brutal qui se fait en faveur de la nature, même si on peut questionner cette nature, en tout cas à travers la forêt, hein, ce qui est censé être l'aboutissement de la forme la plus évoluée de la nature. Après 1947, c'est l'appropriation nationale proprement dite. L'État devient propriétaire à partir de 1930, mais c'est plutôt à partir de 1947 que s'observe véritablement une appropriation du territoire. Mais peu à peu, finalement, l'État va se désengager pour une gestion plus multifactorielle et locale, avec donc l'établissement public à caractère industriel et commercial qui se met en place à partir de 2005. Ce que l'on observe pour cette période, donc depuis 1947, c'est une prise en compte croissante de la biodiversité, des habitats, de la grande faune emblématique, qui finalement révèle aussi un changement de paradigme que l'on perçoit à l'échelle de la société. Hein. Ce sont des évolutions perceptibles plus généralement au sein de la société. Au sein du domaine national de Chambord, cette évolution vers la biodiversité, c'est aussi une biodiversité qui est valorisée dans un objectif de développement économique, puisqu'on est de développement en l'occurrence touristique, puisqu'on est face à un domaine hein, qui est avant tout touristique. Donc, notre conclusion, l'une de nos conclusions, c'est que finalement, on a, en termes de gouvernance, des outils qui sont mobilisés pour la protection, mais aussi pour la valorisation du territoire et de la biodiversité, et que finalement, ces différentes actions, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais elles convergent vers cette plus grande prise en compte de la biodiversité. Je vous remercie de votre attention.